Radio Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, survivante ou pas encore ? C'est une campagne que lancent 18 médias syriens pour alerter sur les discriminations vécues après leur libération par des femmes qui ont été détenues soit par les forces gouvernementales, soit par des groupes islamistes comme Daesh. L'initiative a reçu le soutien de l'ONG franco-syrienne ASML Syria. Nous en parlons avec son assistante de direction, Lucie Zagrad. Une soirée alternative le jour de la finale de l'Eurovision. Global Vision sera organisée en Israël et dans les territoires palestiniens le 18 mai par des artistes membres du mouvement de boycott d'Israël, le BDS. Reportage de Guilhem Deltey. À suivre la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul et Alexandre Bouchanti. Survivor or not yet, survivante ou pas encore en français, c'est le titre de la campagne que lancent des médias syriens à l'initiative de la plateforme Aini Aynak, avec le soutien de l'ASML Syria, dont vous êtes l'assistante de direction, Lucie Zagrad. Bonjour.
Bonjour.
Un mot tout d'abord de votre ONG. Quelle est sa mission ?
Alors, nous avons pour mission de défendre le travail des journalistes indépendants en Syrie et de soutenir la société civile par des projets médias innovants.
Par exemple ?
Par exemple, donc, nous avons un projet de soutien à l'autonomisation des femmes à travers les médias. Donc, nous soutenons cette plateforme Aini Aynak, qui est un média d'expression pour femmes, donc, et qui est à la fois aussi une plateforme où vont se retrouver la production journalistique de ces femmes qu'on entraîne au journalisme.
Donc, est-ce avec cet objectif que vous avez lancé justement Aniak, qui est une plateforme pour des femmes qui apprennent le journalisme en quelque sorte ?
Exactement. C'est donc une plateforme qui est hybride, qui sert à la fois donc pour publier les contenus qui sont travaillés par ces femmes, donc en coopération avec notre équipe d'entraîneurs, de trainers en ligne et sur le terrain. Et c'est aussi maintenant un véritable média qui a un public de plus en plus important et qui traite des sujets de société, donc dans les régions d'opposition syrienne.
Qui sont les entraîneurs précisément ?
Alors donc au niveau des formateurs, ce sont donc des formateurs qui sont tous syriens, tous journalistes. On a donc une équipe sur le terrain qui est formée par donc notre équipe permanente, avec une méthode qui est donc la même à chaque fois qu'on reproduit des formations sur le terrain, unifiée. Et ensuite, il y a une partie formation en ligne qui est plus longue, celle-ci, qui dure plusieurs mois, 4 mois, au cours de laquelle donc ces femmes vont être entraînées à pouvoir perfectionner leur production journalistique et donc pouvoir publier.
Quand vous parlez de terrain, de quel terrain parlez-vous en Syrie ?
Alors, nous travaillons en zone d'opposition en Syrie, donc actuellement à Idlib, dans le nord syrien, également donc dans les zones qui sont sous autonomie kurde. L'année dernière, nous avions également un programme dans la Routa et qui a bien évidemment fermé.
Donc vous êtes sur la partie Rojava, par exemple, et la région Idlib.
Voilà, et dans la partie aussi en zone turque, donc dans le nord syrien.
Cette campagne survivante ou pas encore, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit en fait plus qu'une campagne, d'un véritable mouvement de société civile. Il y a donc un phénomène qui a été remarqué par plusieurs journalistes, qui était donc le phénomène du retour dans la société de ces femmes qui avaient passé donc un séjour soit en prison, dans les prisons de l'État islamique, soit dans les prisons du régime, et qui se retrouvaient toutes confrontées au même type de difficultés quand elles sortaient, c'est-à-dire, pour les regrouper sous 4 thèmes à peu près, donc le divorce, la séparation des enfants, l'obligation de partir et donc de fuir leur région pour fuir vers la Turquie, ou vers une autre ville, et la honte qu'elles peuvent exprimer dans la société, et donc le sentiment d'exclusion et les difficultés au quotidien.
Donc le travail de Aini Aynak, ça a été de rapporter ce que ces femmes avaient à dire à la fois sur leur enfermement et surtout sur ce qui s'est passé après cet enfermement.
Exactement, la campagne se concentre sur les difficultés qui surviennent lors du retour dans la société de ces femmes. Et donc à la base, Aini Aynak avait publié 12 entretiens audio l'année dernière, il y a tout juste un an, et c'est ces entretiens audio qui ont permis de marquer en fait le début de l'intérêt pour ce sujet-là auprès de nos journalistes, qui se sont rendus compte qu'il y avait vraiment matière à effectivement lancer une campagne de beaucoup plus grande envergure.
Mais précisément, ces femmes qui sont désormais libérées, qu'est-ce qu'elles racontent de ce qu'elles vivent au quotidien ?
Alors, beaucoup sont confrontées au divorce, comme je vous le disais. Certaines continuent leur vie maritale, mais tous les jours sont confrontées à des humiliations de la part de leur mari, qui vont leur rappeler sans cesse qu'il reste avec elles, bien qu'elles aient été emprisonnées. Pour que le public français comprenne bien, qu'on a été emprisonné, on a été probablement violé, ou en tout cas, il y a un risque qu'on ait été violé, donc on porte la honte sur nous. Et c'est donc ça qui pose problème auprès de la société. Donc, La première chose, c'est donc le conflit avec le mari ou avec la famille, avec les parents, les frères et sœurs. Et ensuite, le deuxième type de problème, ça va être la séparation avec les enfants, comme je vous ai dit, donc qui va découler du divorce. Certaines prennent la fuite, donc décident d'aller vivre ailleurs, et donc d'autres aussi font état de situations beaucoup plus tragiques, comme par exemple l'une d'entre elles qui raconte que le jour de sa sortie de prison, elle assiste au mariage de son mari, qui se remarie donc une deuxième fois le jour de sa sortie de prison, ou encore certaines donc qui se retrouvent dans des situations beaucoup plus dramatiques, confrontées effectivement à des, comment dire, à des hommes qui les considèrent comme de petites vertus.
Et cela, indépendamment du fait qu'elles aient été détenues, et pour quelque raison que ce soit, aussi bien par l'État islamique que par le régime syrien.
Bien sûr, on a même des histoires, par exemple, certaines vont relater qu'elles vont aller se renseigner pour un membre déjà emprisonné. Par exemple, on a le cas d'une mère qui est venue se renseigner auprès des services de renseignement, donc pour savoir ce qu'était advenu de sa fille qui était emprisonnée. Les deux ont été emprisonnées, et les deux sont sorties. Quand elles sont sorties, ont eu énormément de problèmes à se réinsérer dans la société, et ont été désignées comme la famille des femmes détenues.
Comment espérez-vous que cette campagne que vous lancez améliore le sort de ces femmes ?
C'est là l'enjeu de cette campagne. Non, tout d'abord, on a une grosse mobilisation des médias syriens, puisqu'on a 16 médias syriens qui se mobilisent. Donc ça, c'est vraiment inédit. En plus de cette campagne médiatique, on a des événements qui sont organisés sur le terrain. Donc on a des conférences, on a des sittings, il y en a eu à Azaz, à Afrin, à Kefalonbal, il y a eu deux conférences, il y en a une deuxième demain à Idlib. Donc déjà, la parole est libérée, c'est déjà un premier pas. C'est un sujet également qui est très très difficile à aborder, surtout devant un public masculin. Donc là, au cours de ces conférences et de ces sit-ins, on a donc des femmes qui s'expriment, mais il y a aussi des hommes qui viennent. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier pas. Ensuite, on a aussi des femmes qui ont choisi de s'exprimer à visage caché, par exemple à travers la plateforme Aïn Irinek, qui ont envoyé leur témoignage par message privé, et qui sont en train de travailler sur des articles. Donc là aussi, on a vraiment des témoignages spontanés qui vont pouvoir être diffusés, et donc ça aussi, on pense pouvoir aider, au moins en tout cas à libérer la parole déjà dans un premier temps. Les conférences qui s'organisent et les sit-ins devraient normalement perdurer et inviter en tout cas à plus de réflexion, et les 16 médias syriens qui participent devraient relayer aussi l'information de façon à faire réfléchir vraiment la société à long terme.
Cela dit, votre action se porte surtout sur les zones qui sont indépendantes du régime actuellement, rebelles, comme on les appelle. Est-ce que, en cas de reprise en main par le pouvoir, toute cette opération pourrait perdurer ou au contraire s'effondrer ?
Alors pas du tout, on a même des témoignages qui nous viennent de femmes anciennement détenues à Damas. Donc le problème est le même, en fait, que la zone soit une zone d'opposition ou que ça soit une zone du régime. Le problème reste le même, quand on a été emprisonné, on porte sur nous la marque de la honte. Non, ces témoignages, au contraire, doivent être libérés, doivent être portés et accompagnés. Et au contraire, il n'y a rien qui sera perdu, même si demain les régions sont reprises par le régime. Car l'essentiel, quand même, c'est de travailler au niveau de la société civile et au niveau, des traditions, de ce qui se fait, des rapports hommes-femmes de façon profonde dans la société.
Justement, sentez-vous qu'il y ait quelque chose qui peut permettre à la société civile d'évoluer, d'avancer dans le sens que vous souhaitez à travers cet exemple ?
Vous voulez dire au niveau des initiatives qui se font au niveau des femmes ? Oui, effectivement, on a beaucoup de choses. Alors, bon, évidemment, si on parle de la région d'Idlib, qui est donc une région où il y a Al-Nusra, qui est donc une région qui, à la base, est quand même très traditionnelle aussi, moins que les zones, par exemple, sous autonomie kurde, par exemple. Eh bien, dans ces régions, nous avons des initiatives qui ont été relayées, d'ailleurs aussi par les femmes journalistes qui participent à la plateforme Aïn Irinek. On a par exemple des conseils locaux exclusivement à l'initiative de femmes. On a beaucoup d'initiatives au niveau de la société civile pour que les femmes puissent accéder à ces postes de pouvoir ou en tout cas porter leur voix sur la place publique.
Merci Lucie Zagrad.
Merci à vous.
Assistante de direction à l'ONG syrienne ASML Syria, qui soutient la campagne Survivante ou pas encore, développée par un ensemble de médias syriens en faveur de la difficile réinsertion dans la société civile des femmes anciennement détenues, soit par les forces gouvernementales, soit par les groupes islamistes comme Daesh.
Ouch.
C'est la semaine prochaine qu'aura lieu l'Eurovision, un concours international de chansons réunissant 41 pays. La finale se tiendra samedi 18 à Tel Aviv, car c'est Israël qui a gagné l'édition de l'an passé et qui accueille donc la compétition cette année. Mais face à l'Eurovision, il y aura également ceci.
Global Vision is for Eurovision fans who believe in inclusion, diversity and the power of music. Music teaches us to feel for each other.
Bonjour Guilhem Delteille.
Bonjour Eric.
Vous êtes le correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Alors Global Vision, dont nous venons d'entendre la promotion, c'est donc une soirée alternative qui réunira des artistes palestiniens et internationaux opposés à la tenue de l'Eurovision en Israël.
Oui, dans le contexte du conflit israélo-palestinien, Eric, eh bien chaque grand événement revêt une dimension politique. L'Eurovision est l'un des événements télévisés les plus regardés au monde et son succès populaire eh bien le rend d'autant plus politique. Najwan Berektar est une militante arabe israélienne descendant des Palestiniens restés sur leur terre à la création d'Israël en 1948. Elle est membre de l'organisation Zohrot qui travaille à la reconnaissance de la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens, qui a représenté l'exode de plus de 700 000 d'entre eux en 1948 et elle est l'une des organisatrices de Global Vision.
Israël utilise toujours ces événements culturels pour faire du art-washing. Nous disons que nous ne devrions pas permettre à Israël d'utiliser un événement international aussi important que l'Eurovision à des fins politiques pour se blanchir. Et nous savons tous que la culture et l'art sont liés à la politique, particulièrement quand il s'agit d'un lieu en conflit, comme Israël.
Un avis assez largement partagé parmi les artistes palestiniens. Ils sont nombreux à avoir répondu positivement aux sollicitations de Global Vision. Les principales figures de la scène musicale participeront à la soirée. Bachar Mourad est un chanteur palestinien de Jérusalem.
Tant qu'il y aura une occupation, tant qu'il y aura des gens dont les libertés, les mouvements et les droits fondamentaux sont limités, tant que les gens à Gaza vivront dans une prison à ciel ouvert, je ne pense pas que l'Eurovision devrait avoir lieu ici. C'est franchement ridicule et absurde que ça ait lieu ici et que personne, mis à part les alliés des Palestiniens, ne le dénonce.
Guilhem, précisément en quoi va consister cette soirée Global Vision ?
Eh bien, pendant 4 heures, des artistes palestiniens, mais aussi internationaux, vont se relayer sur scène. Il y aura des concerts dans plusieurs villes, dans plusieurs pays même, à Bethléem, en Cisjordanie, à Haïfa, ville israélienne où vit une importante minorité palestinienne, mais aussi à Londres et à Dublin. La soirée sera retransmise sur Internet, Facebook, YouTube et le site Internet de Global Vision. Elle se veut message de solidarité avec les Palestiniens, mais aussi vitrine de la culture palestinienne. Et elle veut montrer une ouverture de la société palestinienne sur la place des femmes, par exemple, ou sur celle des homosexuels. À Haïfa, la soirée sera animée par un artiste palestinien travesti et Bachar Mourad y chantera.
J'ai grandi en Palestine, je suis ouvertement homosexuel et je bénéficie d'un grand soutien de ma communauté. Bien sûr, tout le monde ne me soutient pas, mais je pense que c'est comme n'importe où. Et ce n'est pas juste de ne pas accorder du crédit aux Palestiniens quand ils acceptent et sont tolérants, car tous les pays ont commencé avec l'homophobie. Israël utilise l'excuse LGBT pour donner une mauvaise image des Palestiniens.
Et comment l'État d'Israël répond-il à la politisation de cet événement, Guilhem ?
Eh bien, selon le quotidien Haaretz, le ministère des Affaires stratégiques a désigné une équipe interministérielle chargée de déterminer la manière adéquate de répondre aux critiques qui pourraient venir, notamment de la part des artistes qui participeront au concours la semaine prochaine. Le groupe qui représente l'Islande a notamment estimé qu'Israël est un pays pratiquant l'apartheid. Et puis, il y a plusieurs personnalités israéliennes qui ont aussi publiquement regretté ces appels au boycott. C'est le cas de Neta Barzilai, la gagnante de l'an dernier.
Le concours de l'Eurovision a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour soigner les plaies de nations déchirées. Être sur la même scène, quelle que soit votre religion, votre identité ethnique ou votre couleur, que tous ces pays, toutes ces cultures se mêlent, c'est un festival de lumière. Boycotter la lumière, c'est diffuser l'obscurantisme. C'est faire l'exact opposé. Et c'est pour ça que je pense que le résultat est peut-être contraire au but recherché.
Eurovision ou Global Vision, ces deux événements sont donc à suivre samedi prochain. Merci Guilhem Deltey.
Merci à vous.
Et nous restons à Jérusalem où nous retrouvons Michel Paul pour la revue de presse croisée. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et nous allons maintenant au Caire où nous attend Alexandre Boutchanti. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, le Libyen Khalifa Haftar, en visite en Égypte, encensé par certains, mais diabolisé par d'autres.
Oui, et c'est la deuxième visite du maréchal en Égypte en moins d'un mois. L'Égypte, où il a été reçu par un autre maréchal devenu président, lui, Abdel Fattah Sisi. Sisi, qui a affirmé son soutien à l'institution militaire libyenne et à son rôle dans la lutte antiterroriste. Pour les journaux égyptiens, Haftar passe par Sisi pour informer le reste du monde de la situation en Libye. Traduction, pour transmettre aux Américains et aux Européens l'importance de soutenir Haftar ou du moins de ne pas lui être hostile, et cela à un moment où son ennemi, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, a entamé une tournée européenne. Le journal Al-Quds Al-Arabi, proche du Qatar, qui avec la Turquie soutient les milices islamistes opposées au maréchal, affirme dans son éditorial que Haftar n'est qu'un agent stipendié des puissances de la contre-révolution arabe, l'Arabie, les Émirats et l'Égypte. Le journal qui publie une photo où Haftar est qualifié de criminel de guerre et de tueur de musulmans estime que la tournée du maréchal chez ses alliés est un appel à l'aide pour relancer son offensive contre Tripoli.
Michel Paul à la une de la presse en Israël, la nouvelle position iranienne sur le dossier nucléaire.
La menace iranienne et la réponse américaine, titre Yediot Aharonot, qui comme toute la presse israélienne de cette fin de semaine tente de résumer les enjeux, les partis font jouer leurs muscles et plusieurs commentateurs estiment qu'en fin de parcours c'est Israël qui pourrait en faire les frais. Mariv qualifie l'ultimatum iranien d'heure de vérité, un forcing qui permettrait à Téhéran d'obtenir une arme nucléaire rapidement. Pour Haaretz, la tension est indéniable, mais on ne peut pas parler encore de casus belli. Israël Ayom parle, lui, de bruit de bottes et souligne que le président américain ne rejette pas la possibilité d'une intervention militaire.
Une infox, Alexandre, l'Arabie Saoudite dépénaliserait le non-respect du jeûne du Ramadan en public.
Oui, sur les réseaux sociaux et même dans certains médias, s'est répandu un facsimilé d'un arrêté du ministre de l'Intérieur saoudien ordonnant de ne pas poursuivre ceux qui mangent en public durant le Ramadan par respect des droits de l'homme. Une vraie révolution si c'était vrai. Mais voilà, c'est faux et archi-faux, ont déclaré les autorités saoudiennes dans un communiqué repris par la presse d'Arabie et plusieurs journaux arabes. Le démenti ne rappelle toutefois pas la peine encourue, c'est-à-dire la prison et la flagellation pour les Saoudiens et l'expulsion immédiate pour les étrangers. D'autres pays arabes infligent des peines moins sévères à ceux qui ne respectent pas publiquement le Ramadan. Cela va de l'amende à la prison. En Égypte, aucune loi n'interdit le non-respect public du jeûne, mais la police fait parfois du zèle en prétextant la menace à l'ordre public. On ferme évidemment les yeux dans tous les lieux touristiques.
Michel, des détails sur le fameux deal du siècle concocté par Donald Trump, détail inédit mais non confirmé.
L'article est paru cette semaine dans Israel Hayom, le journal au plus fort tirage en Israël, et qui est aussi un journal gratuit proche du Likoud, le parti du premier ministre israélien, et qui entretient d'excellentes relations avec le président américain. Des révélations donc sur ce qui pourrait être le fameux deal du siècle, le plan de paix de Donald Trump pour régler le conflit israélo-palestinien, un accord qui devrait être signé en fin de compte par trois entités, Israël, l'OLP et aussi le Hamas. Cela permettrait la naissance d'un nouvel État dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza qui porterait le nom de Nouvelle Palestine. Des élections devraient se dérouler un an après la création de cet État et Israël devrait libérer les détenus palestiniens progressivement pendant une période de 3 ans. En ce qui concerne Jérusalem, eh bien la ville ne serait pas divisée, sa gestion, elle, serait partagée par Israël et les Palestiniens tout en restant sous le contrôle israélien. Les colonies de peuplement seraient rattachées à Israël. L'accord prévoit également la construction d'un port et d'un aéroport pour desservir la bande de Gaza, 30 milliards de dollars d'aide pour la nouvelle Palestine et aussi des sanctions pour les récalcitrants côté palestinien et également côté israélien.
Merci à Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanté au Caire. Merci également à Mathias Golchani qui réalise et met en onde chaque semaine cette émission de RFI que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr. Demain, Gilda Chaverdi, ancienne directrice de l'Institut français de Kaboul, nous parlera de la production artistique en Afghanistan, un sujet développé en partenariat avec la revue trimestrielle Moyen-Orient. À demain donc, dans un instant, le journal.